20h, 21h, Time Foot spécial Cannes 2024 avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM. En ce vendredi 12 janvier, 20h pétante, c'est l'horaire de votre quotidien sportif qui n'est autre que Time Foot spécial Coupe d'Afrique des Nations. On le rappelle, hein, dès demain, le match d'ouverture du côté de la Côte d'Ivoire. Et oui, cette fameuse Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu et on suivra ça de près dans cette émission et au travers aussi du site internet, sans oublier aussi de toutes les émissions sur l'antenne de Beurre FM. Au menu de cette émission, ce soir on va parler de quoi ? On va parler du retour de la Ligue 1 Uber Eats, et oui, à travers le pays, Marseille avant la CAN. On rappelle que les Olympiens perdent au moins 7 joueurs, près de 7 joueurs. La CAN 2024, qui sera le fameux grand vainqueur ? Et enfin, on terminera avec Félix Bollaert et Lens, qui attendent tout de même les hommes d'un certain Kylian Mbappé. Et oui, parce qu'on nous disait Kylian fait tout ce qu'il veut. C'est pas moi, c'est Luis Enrique. En tout cas, on va revenir sur ce match-là de ce dimanche soir entre les Lensois et les Parisiens. Le 01 53 48 3000, c'est le numéro du standard. Le débat du jour, on vous l'expose tout simplement. Selon vous, Marseille sera-t-elle forte avec les départs pour cette fameuse CAN 2024? Allez, vous réagissez en composant le numéro du standard, le 01 53 48 3000. Sans plus tarder, on va présenter l'équipe qui m'accompagne ce soir.
Time Sport, il est pour parler.
On est en compagnie de notre journaliste consultante Alison. Bonsoir Alison, comment ça va en ce vendredi soir ?
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ça va très très bien.
Ouais, tranquillement.
C'est moins froid, ça va mieux.
Ah oui Alison ?
Ouais,
mais moi je...
Un peu moins froid.
Un peu moins froid.
Ces deux derniers jours, on a
souffert. Ça, c'est Alison qui le dit, oui. Samir est avec nous ce soir. Bonsoir Samir, comment ça va ?
Ça va super, bonsoir à tous, bonne année, tous mes vœux pour cette nouvelle année.
La bonne année,
à tous les
Samir,
consultants,
c'est sa première,
de ce plateau,
oui, de 2024.
Tous les auditeurs, auditrices, bonne année à tous.
La santé Samir, surtout le bonheur et la réussite, hein, on espère pour toi et tous les êtres qui te sont chers.
Merci Bilal.
Eh oui, Vivien, tu me regardes comme ça en souriant, vas-y, tu peux te moquer.
Alors, on t'écoute. Non, Vivien. Bonsoir, bonsoir Bilal, Vivien. Bonsoir à tous. Non, écoute, moi je suis juste heureux, on est en veille de Cannes, je veux dire, c'est...
Eh ben oui.
C'est une formidable vitrine, en plus on a une année, on en parlera, mais... Bah pour moi, il y a 10 équipes qui peuvent la gagner cette année, donc moi je suis heureux.
Tu disais hier avec Mathieu, hein, c'est vrai, on en parlait.
Ouais, mais j'ai gardé quelques cartouches pour ce soir, parce qu'il y a des snipers autour du plateau, donc je me méfie.
Là, il y en a, il y a Benji aussi avec nous ce soir.
Oui,
bonsoir Benji, comment ça va ?
Bonjour à tous, bonjour Bilal, ça va très bien, très en forme, très heureux de terminer la semaine avec vous. Un très beau programme, veille de Cannes, comme l'a très bien dit Vivien, donc très heureux. Très très heureux et hâte de ce match d'ouverture Guinée-Bissau, Côte d'Ivoire demain.
C'est vrai, match d'ouverture dans cette Ligue 1 Uber Eats, justement, avant de retrouver Marseille et l'Orange Vélodrome. On va s'attarder avec le réalisateur Solal, un petit coucou à Solal. Bonsoir Solal.
Bonasera a tutti, oui, ouverture de Cannes imminente, forcément, on va vous faire vivre ça en 4K HD avec l'équipe forcément de Time Sport. Et écoutez, j'espère que tout va bien pour vous, chers auditeurs et chères auditrices.
On a des personnes qui partiront en Afrique, hein, en principe.
Peut-être, mais on vous garde pour l'instant la surprise.
Oh, mais ils sont chauds, hein, c'est la surprise.
Oui,
il y a beaucoup de surprises durant ce mois de janvier.
La surprise de maintenant, c'est 01 53 48 3000 si vous voulez réagir avec nous et Vivien fera un plaisir de vous répondre. En tout cas là, il est chaud ce soir.
Ben Alison aussi, hein. Je vais pas dire qu'elle est chaude, mais en tout cas elle est souriante.
Oh, ouais, c'est borderline.
Ouais,
ça.
Alison, arrête un peu là.
En tout cas, j'espère qu'Alison a beaucoup regardé 24 heures chrono, parce que faut toujours être prêt comme Jack Bauer à partir, on sait pas où.
Je suis prêt, Vivien, t'inquiète pas.
En tout cas, on a Nasser qui est prêt, il est déjà à Madrid, Nasser. Il nous écoute depuis Madrid.
Ça avance un petit peu, c'est ça.
Ouais, voilà, c'est ça, Alison, c'est ça. 21h, c'est Marseille-Strasbourg. Eh oui. Hein, on disait que Strasbourg, c'était un peu cet Olympique de Marseille, mais du Nord. Marseille, le retour de cette Ligue 1, le départ de pas mal de joueurs, Alison. Là aussi, ça promet. En tout cas, il espère tout changer. Hein, c'est Gattuso. Ouais.
Il sera un petit peu obligé, malheureusement pour lui, Gattuso, de tout changer. Hein. Marseille fait partie de ces équipes de Ligue 1 les plus impactées par des départs à la Coupe d'Afrique des Nations. 7 joueurs de l'Olympique de Marseille partiront, dont Chancel Bemba, qui est un cadre et un joueur nécessaire à cette équipe de Marseille. Donc forcément, il faut remanier l'équipe, il faut faire sans. J'espère sans blessures supplémentaires. Mais en tout cas, c'est un vrai challenge qui attend Gattuso, d'autant plus que les Marseillais au classement doivent grappiller des points et surtout ne pas laisser l'écart entre le podium ou du moins les places européennes se creuser.
Justement, c'est un mois de janvier aux allures de tournant pour l'Olympique de Marseille, entre autres Benji. Attention.
Oui, c'est vrai, mais Marseille n'est pas seul dans ce cas-là. C'est vrai qu'on a beaucoup d'équipes de Ligue 1 qui vont être
Lorient, Rennes, par exemple,
qui vont être confrontées. Mais je pense même un club comme Nice qui réussit bien, qui va être impacté par la situation, avec même la perte de Terrain Moufi qui va partir remplacer Victor Boniface du côté du Nigeria. Donc je pense que beaucoup d'équipes de Ligue 1 vont être dans le même cas. Donc l'Olympique de Marseille doit continuer sur la bonne dynamique qu'ils avaient commencé à engendrer depuis une petite dizaine de matchs. C'est vrai, on a eu une défaite en 9 rencontres, il me semble, et ils sont invaincus à domicile depuis ce match amical face à Leverkusen. Donc à domicile contre Strasbourg, c'est une équipe qui doit s'imposer. Alors oui, certes, Gattuso va devoir faire en sorte de combler les joueurs qui vont être absents pour cause de Cannes, mais pour moi l'Olympique de Marseille doit continuer sur sa bonne dynamique, même si dans le jeu tout n'est pas parfait, dans les résultats portés par un Vélodrome qui est plus que jamais présent, je pense que pour moi c'est une équipe qui doit s'imposer facilement du côté de Strasbourg.
Ouais, Karim. Karim, c'était la petite dédicace que je devais faire pour lui. C'est plutôt Samir, désolé.
Moi qui m'emmène.
Pas de soucis, Bilal, c'est pas grave. Apparemment, je t'ai pas trop manqué dans cette émission, mais c'est pas grave.
Il me dit qu'il détestait hein, juste avant. Mais
bon. Non,
Samir,
moi,
pas du tout.
Karim, Samir.
Non, pas du tout. Tu vas voir l'utilité de
Samir.
Tu vas voir l'utilité de Samir sur le prochain débat. Ah ouais, là, je rigole pas. Tu verras
non,
bien.
Non, moi, à l'inverse de ce qui se dit, moi, je pense que justement, pour être pragmatique, c'est justement une problématique, le nombre de joueurs que l'OM va perdre pendant cette CAM. Il y a 8 joueurs qui partent à la Coupe d'Afrique des Nations. Sur les 8 joueurs, il y en a quand même facile 4 ou 5 qui sont régulièrement utilisés par Gattuso. Donc quand tu vois que pendant un mois et demi l'OM a été en difficulté et que là a été chercher des ressources mentales pour revenir et enchaîner des victoires et remonter et gagner des points, et là tu te dis quand l'OM regagne des points, et ils vont réavoir une épreuve, et justement ils reperdent des joueurs et des joueurs importants, ouais. Et qui permettait justement à Gattuso de pouvoir entre guillemets concerner un petit peu tout le monde, tous les joueurs, et là ces joueurs là ils se retrouvent en Coupe d'Afrique des Nations, ils vont revenir, alors je le souhaite pas évidemment, mais peut-être blessés, peut-être fatigués, peut-être usés physiquement, mentalement, et je pense qu'il faut faire attention. Je pense que le mois de janvier, février et mars de l'OM va être très compliqué. En tout cas, je leur souhaite pas du tout justement de faiblir pendant cette période là mais si on est pragmatique, non, ça risque d'être compliqué pour l'Olympique de Marseille.
Ouais, non, aussi.
Oui, c'est vrai que
la pâture, Samir.
Oui, parce qu'on va perdre des joueurs qui sont des clés techniquement, qui peuvent te faire la différence, qui
pour
peuvent
effectivement
avoir ce geste, ce dribble, qui peuvent te faire la différence sur le terrain. Mais après, comme je te le disais, c'est pour moi la vraie clé. Même si Marseille peut perdre techniquement, peut perdre des points, je pense que beaucoup d'autres équipes qui sont devant eux au classement vont en perdre également. Et c'est dans ce sens-là où je te disais que pour moi, Gattuso peut avoir les clés de pouvoir rebâtir quelque chose, de pouvoir se baser sur des joueurs qui eux ne vont pas à la Coupe d'Afrique des Nations et qui avaient.
Tu penses à quelle équipe qui va perdre des points? Je vois pas PSG, Monaco perdre des points.
Je vois Nice perdre des points.
Ouais.
Je pense que Nice peut clairement perdre des points et laisser des plumes au niveau de cette période-là, et surtout que Nice depuis le début de saison, ça gagne. Mais ça a du mal à convaincre dans tous les aspects du jeu. C'est très solide défensivement, mais la plupart des résultats, par moment, peuvent être un peu remis en question, dans le sens où tu concèdes énormément d'occasions. Nice est quand même un club qui gagne souvent avec un but d'écart, qui ont du mal à avoir un engouement offensif. Et si tu perds des joueurs clés offensivement alors que tu as déjà du mal à avoir un engouement offensif, j'ai très peur pour la suite de la saison de l'OGC Nice. Et j'avais déjà alerté il y a un ou deux mois de ça, quoi.
Ouais.
Après, du côté des Olympiens, faut rappeler, alors il y a une première recrue au mercato, un Camerounais Onana qui joue à Beşiktaş. Mmh. Alors pour les auditeurs, c'est un grand colosse d'1m89.
Ouais.
Le petit doute que j'ai sur lui, c'est que par contre, il a pas eu beaucoup de temps de jeu dans sa première partie de saison. Donc là, les compos vont tomber dans quelques instants, mais c'est même possible qu'il soit titulaire dans ce que j'ai entendu. Donc c'est un joueur, voilà, peut-être qui peut être une bonne surprise. On peut l'espérer pour les Olympiens. Après, dans le match de ce soir, faut rappeler quand même que les hommes de Patrick Vieira, quand même pas mal d'absents. Ouais. Il y a alors entre Emenga, Motiba, So, Delaine, Fila, ils ont quand même 5 absents. Je trouve que ce soir, pour moi, Strasbourg a l'air plus décimé que les Olympiens. Alors les Olympiens avec les absents, c'est vrai que la rotation, la rotation, comme on dirait dans les sports US, va être beaucoup plus réduite. Mais pour ce soir, je suis plutôt d'accord avec Benji. On a un OM qui doit être capable de s'imposer confortablement pour et en cas de victoire, il passerait provisoirement dans le top 5. Pour moi, c'est ça l'objectif. Pas forcément de viser le podium tout de suite, mais déjà revenir dans le top 5 dans ces fameuses places dites de l'Europa League.
Puis ils prendraient 7 points d'avance sur leur concurrent, enfin sur leur adversaire direct qui est Strasbourg, qui est 9e, ils sont 6e, donc c'est quand même aussi un match entre deux équipes qui sont plutôt proches, qui sont dans ce milieu de tableau un peu plus haut, on va pour du côté de Marseille, et vraiment milieu de tableau du côté de Strasbourg, et c'est des matchs qu'il faut gagner absolument pour l'OM, pour continuer à se rapprocher au fur et à mesure des places européennes, qui au début de saison étaient clairement leur objectif, qui avait clairement l'effectif pour jouer le podium, voire la deuxième place de championnat.
Oui, Samir, avec Alisson, cet Olympique de Marseille, donc on a refait et on a abordé toutes les possibilités de cet OM.
La seule chose qu'on pourra dire, c'est qu'il y aura moins de stars que dans le match NBA hier à Paris. Ouais. Il n'y aura pas David Beckham,
il y en avait des stars, ouais.
Il n'y aura pas Ronaldo, R9. Bah, là, apparemment, Vélodrome. En plus, il faut rappeler que le Vélodrome, il y a une partie de la tribune qui sera suspendue ce soir, de mémoire.
Ouais.
Avec les affaires qu'il y a eu, bah si, il y aura 15 000 en moins.
Ouais, 15 000.
Donc,
c'est
pas négligeable pour un.
Sur le virage.
Pour un stade qui compte beaucoup sur la ferveur, qui est un des meilleurs publics de France, si ce n'est le meilleur, oui, c'est. Donc, il faut voir, Moi, j'ai plutôt confiance en Gattuso, pour ce soir, en tout cas, je pense que ça devrait passer, mais.
Sur la durée, c'est autre chose.
Après, sur la durée, mais c'est. C'est comme beaucoup de clubs, malheureusement. Puis sachant qu'en France on a du mal à enchaîner sans la CAN déjà au mois d'hiver, on a du mal quand il y a la Coupe de France, etc. Il n'y a pas besoin de la CAN pour avoir du mal en France, donc.
Ah ben justement, on va passer à cette fameuse Coupe d'Afrique des Nations. On y va. Est-ce qu'on peut enchaîner avec le second sujet justement de cette CAN, avec justement la nation qui est la Côte d'Ivoire, qui est le pays hôte de cette version 2024 de cette Coupe d'Afrique des Nations.
Time Sport. La parole des sociaux.
Et oui, Alisson, justement, il y a pas mal de choses à dire concernant aussi même la sécurité sur la surveillance du côté de la Côte d'Ivoire avant le coup d'envoi. Mais bon, la sécurité est bien là. Ouais, on nous promet aussi que ça sera une CAN, on l'espère en tout cas, bien réalisée, et ça sera un moment de convivialité
et des déplacements agréables pour les médias aussi.
Ouais, pas que pour les médias, parce que là sur les réseaux sociaux, je suis tombé sur des trucs assez fous quoi. Mais on va en rester là, comme tu dis, on va rester très poli avec tout le monde ce soir. Alisson, peut-être la Côte d'Ivoire, version 2024, et les nations, qui on sortira vainqueur. On nous dit le Maroc, on nous dit le Sénégal, on nous dit la Côte d'Ivoire, on nous dit peut-être cette nation qui est l'Algérie revancharde. Oui, qui ?
Ouais, qui, c'est difficile, je pense que en termes de, d'homogénéité en niveau des équipes africaines cette année, je pense que c'est l'une des CAN où il y a le plus, les équipes sont au touche-touche, c'est-à-dire que c'est difficile de dégager vraiment véritablement un favori. Je pense qu'en termes de niveau, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit l'Algérie, que ce soit l'Égypte, c'est très 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 près les uns des autres. Donc celui qui se mouillera et dira mettra une pièce, en tout cas je le félicite d'avance. En tout cas, ce qui est pour moi, je pense que l'Égypte, c'est sa compétition. Ça reste sa compétition. Il y a toujours l'Égypte répond toujours présent pendant la CAN. On peut citer aussi par exemple la Côte d'Ivoire qui revient bien, qui a connu des déboires ces dernières années, mais qui revient bien, qui a une équipe solide. Il y a l'Algérie aussi, il y a le Maroc qui a fait demi-finaliste de la Coupe du Monde, mais qui ensuite a eu des difficultés pour confirmer son statut de Grande Afrique. Donc je mets le Maroc, mais j'ai une réserve. Et ensuite, il y a des outsiders, parce que la CAN, c'est toujours une compétition qui reste toujours ouverte, parce qu'on sait que ça se joue dans des conditions toujours très difficiles, et que les favoris ne sont pas forcément ceux qui vont au bout de la compétition. On parle par exemple de la Guinée-Bissau, qui, à mon sens, techniquement, tactiquement, c'est une belle équipe. On a tendance à pas trop la regarder, mais ça reste une belle équipe. On a les Zambiens aussi, qui ont fait une épopée et qui, à mon sens aussi, restent de sérieux candidats. Donc dégager un favori et dire oui que l'Algérie ou que la Côte d'Ivoire ou même que une autre équipe avait gagné, c'est très difficile cette année.
Justement, on va revenir avec la Coupe d'Afrique des Nations avec toute l'équipe de Time Sport. Restez à l'écoute, une première pause et on revient rapidement.
Time Foot spécial CAN 2024 revient dans un instant. Beurre FM, 20h, 21h, Time Foot spécial CAN 2024 avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, 20h17 minutes. On t'a égaré, Vivien. Tu nous as laissé.
C'est qui c'est. Ah oui, vrai. Tu sais, on balance vraiment toutes les coulisses.
Les visiteurs du soir. Les fameux visiteurs du soir du côté de l'Elysée.
On aurait aimé être ministre. On n'a même pas passé d'entretien.
C'était pas loin de ta éducation, Vivien.
Peut-être qu'on n'a pas eu assez de relations avec le Premier ministre, surtout.
De
relations professionnelles, j'ai pas.
Respectons le Premier ministre. Et son président de la République.
Je parlais de relations professionnelles.
Bien sûr, toujours. La Coupe d'Afrique des Nations, justement, avec Solal, Julien. Eh oui, il est toujours là, Solal. T'inquiète pas, Solal. Il est toujours là, au 0153483000 avec. On a qui? On a Samir avec nous, sans oublier. Allison. Eh oui, non, j'ai pas du mal.
T'as du mal.
Là, je suis Younes dans pas longtemps.
Et Abdel après, à la fin de l'émission.
J'aurais pu l'appeler Rachid. Rachid, ça passe en général.
Pas du tout. Samir, mais c'est bon. J'ai parlé avec lui à mon émission, pendant l'émission. Et après tout l'émission.
On est bien accueillis ici, Bilal.
Non, on est très bien accueillis. Dans la joie et la bonne humeur. Justement, c'est cette Coupe d'Afrique des Nations 2024 du 13 janvier, dès demain, jusqu'au 11 février. Benji, il y a pas mal de nations aussi.
Les 24. Franchement, trop heureux que. Non mais vraiment je suis trop content que cette CAN commence demain parce que je pense qu'on va vraiment assister à l'une des plus belles CAN que j'ai eu l'occasion de voir dans ma vie très honnêtement. À la fois par la qualité technique, tactique qu'il y aura sur le terrain, le côté très stack et très équilibré des équipes, le niveau de jeu qui est très équilibré et très haut, donc je pense qu'on va avoir vraiment du très beau football.
Pas de novice.
Et puis en plus de ça, au-delà de ça, on va aussi voir du très beau football. En plus, ça va être accompagné dans le sens où c'est peut-être les plus beaux terrains qu'on va avoir sur une CAN, peut-être les meilleures infrastructures aussi bien du coup dans les stades, mais aussi en dehors pour l'accompagnement des joueurs, là où ils vont être logés, etc. Et tout. Et donc c'est vrai qu'on a eu beaucoup de critiques sur les dernières CAN autour de ça, que ce soit pour les joueurs ou sur le terrain. Et c'est vrai que avec tous ces ingrédients réunis, en espérant qu'il n'y ait rien qui vienne troubler la fête, on risque d'avoir un tournoi absolument fantastique où il y a peut-être, comme le disait si bien Vivien en début d'émission, peut-être 8-10 équipes qui peuvent prétendre au dernier carré de cette coupe d'Afrique des Nations. J'ai dit Coupe du Monde tellement le niveau est magnifique. Ouais. Mais non, c'est vrai. Donc, comme le disait Alison tout à l'heure, moi je mettrais peut-être le Maroc un chouïa au-dessus si je devais en tirer un.
Mais c'est un peu
le choix de la facilité dans le sens où il sort d'une Coupe du Monde absolument historique où ils vont chercher un dernier carré. Voilà, ils vont chercher un dernier carré en montrant des choses absolument fantastiques et dans le sens où selon moi c'est peut-être l'équipe la plus armée pour répondre aux différents défis qui vont leur être imposés par les autres équipes. Aussi bien, ils ont cette capacité avec les joueurs de ballon qu'ils ont de pouvoir faire un jeu de possession. Pouvoir chercher le déséquilibre dans les défenses adverses sur des équipes qui vont vouloir jouer le contre et aussi bien sur des équipes qui vont être joueuses, qui vont vouloir avoir la possession du ballon comme ils l'ont fait pendant la plus grande partie de la Coupe du Monde, c'est-à-dire ces contres très rapides, très incisifs avec les joueurs très techniques devant. Donc je pense que c'est une équipe qui va avoir la capacité peut-être la plus simple à pouvoir mettre en difficulté la majorité des équipes en face, mais des équipes comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal, comme l'Algérie, et même comme le Nigeria, comme je l'expliquais, pour moi le Nigeria pouvait être la belle histoire, la belle surprise, mais c'est vrai qu'avec l'absence de Victor Boniface, l'attaquant du Bayer Leverkusen, ça risque d'être un peu compliqué.
Ouais, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, justement, c'est demain, c'est le match d'ouverture, 21h heure française. Oui, sur la réaction, avant de donner la parole à Samir.
Il y a quelque chose qui me fait très fortement plaisir en France, c'est que du coup, la CAN, c'est la deuxième compétition continentale la plus suivie avec l'Euro qui est juste devant et ça va être l'occasion justement de redécouvrir toutes ces personnes qui sont issues de l'immigration et qui vont pouvoir célébrer des victoires, vivre des moments forts de sport et les partager forcément avec toute la France. Donc moi j'attends cette compétition avec forte impatience. Et justement par rapport à l'ambiance, on a très souvent vendu les ambiances, que ce soit pour la Coupe du Monde, l'Euro ou bien forcément la Coupe du Monde de rugby tout simplement. Mais j'espère tout simplement pour te dire que l'ambiance sera au rendez-vous en France et que les gens nous feront véhiculer cette passion-là pour le sport africain forcément, et on attend ça dans tous les cas.
Eh ben bien sûr, tu l'auras aussi sur l'antenne de Beurre FM, Samir. Hein, dis-lui, explique-lui, parce que Samir, il a fortement travaillé concernant ces différentes CAN. Non, mais c'est vrai. Et justement, ces nations. Et oui, il nous parlait du Maroc. Peut-être aussi, on nous sortait la Côte d'Ivoire. Alisson nous en sortait tant d'autres. Vivien nous en sortait 10 des nations. On va voir les 10 nations, hein, parce que moi, je les ai pas vues encore. Je les ai pas entendues, les 10 nations de Vivien.
Je peux les
et
voir.
Selon, ouais, Samir, justement, ouais, il en pense quoi, cette Coupe d'Afrique, non, mais des Nations 2024,
c'est,
Samir.
C'est vrai que ils ont un peu déjà très bien teasé cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est tout a un petit peu été dit. Si je peux un petit peu ajouter des retours que j'ai sur place, parce qu'on a forcément des gens dans les sélections nationales sur place qui nous parlent un petit peu de l'accueil qui leur ont été réservé apparemment, mais vraiment les Ivoiriens, un grand bravo, parce qu'ils mettent un engouement incroyable, ils mettent de la bonne humeur, de la joie.
C'est vrai.
J'ai aussi des confrères, nos confrères Bilal qui sont sur place et qui régulièrement nous font des retours et nous disent qu'en fait partout dans le pays ça fait que de danser, de chanter, d'applaudir toutes les sélections, et je ne dis pas une sélection en particulier, ils applaudissent, ils accueillent bien toutes les sélections. Donc là je voulais dire juste un grand bravo à la Côte d'Ivoire. Moi, à titre personnel, on était déjà ensemble lors de la dernière CAN, Bilal, et j'ai été très critique envers le Cameroun à juste titre. Je pense avoir fait preuve d'objectivité aujourd'hui, en tout cas avant le démarrage de la CAN. Aujourd'hui, on a l'impression que tout va bien parce qu'on n'a pas encore entendu de dinguerie, en fait. Pourquoi on a autant critiqué les autres CAN? Parce qu'il se passait déjà des trucs de fou. Là, en vrai, comme tout ce qui a été dit juste avant, les infrastructures, rien à dire. Tu vois les joueurs, ils filment les hôtels, ils sont contents. Tu vois de la bonne humeur, tu vois des choses qu'on voyait pas, en fait, juste avant. Et puis des retours un petit peu plus privés qu'on a, apparemment, tout se passe bien. Voilà. Ça, c'est pour l'aspect logistique, organisation de la CAN. Donc vraiment, un grand bravo. Maintenant, sur la compétition.
Alors,
là, on va parler un petit peu plus rectangle vert. Franchement, je serais un voyant si j'arrivais à te dire qui va gagner la CAN. C'est injouable.
Là, tu sais pas encore.
Effectivement, il y a des sélections solides.
Alors les solides.
Naturellement, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire que le Maroc a fait une demi-finale de Coupe du Monde, tu es obligé de les mettre. Tu vas dire que le Sénégal a gagné la dernière CAN, tu peux les mettre. Mais je peux te donner des statistiques aussi. Je peux te dire que les derniers vainqueurs de CAN ne gagnent jamais la CAN suivante, à part quand l'Égypte a écrasé, entre guillemets, le continent africain en 2008-2010 de mémoire. En dehors de l'Égypte, personne l'a fait. Je peux aussi te dire que les nations maghrébines ne gagnent jamais en Afrique subsaharienne. Donc en gros, ça n'arrive pas. Alors on se réfère à quoi? On se réfère aux stats. Moi, je pense que ce qui est beau dans cette CAN, c'est que justement, c'est l'inconnu, en fait. Tu ne peux pas savoir ce qui va se passer dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Oui, il y a 10 nations embêtantes, ça c'est une réalité. Après, on n'a pas parlé du Mali qui va venir titiller un peu l'Afrique du Sud et la Tunisie. On n'a pas parlé du Burkina Faso qui va peut-être finir deuxième dans le groupe de l'Algérie, qui va peut-être aller embêter une autre sélection huitième de finale. Moi, j'apprécie beaucoup cette future Coupe d'Afrique des Nations parce que les sélections sont au rendez-vous et les plus grands joueurs, en fait les joueurs stars de chaque équipe, seront présentes. Et je trouve ça magnifique pour en tant que vraiment ambassadeur de la CAN. Je trouve ça trop beau. On aura du Sadio Mané, on aura du Riyad Mahrez, on aura du Hakimi, c'est trop beau, en fait. Donc moi, je souhaite juste, vraiment pour rejoindre un petit peu ce que Solal disait tout à l'heure,
cet engouement,
et je conclurai là-dessus, c'est vraiment, prenez tous du plaisir, faites vraiment supporter vos nations, chambrez-vous, mais juste dans la bonne humeur, parce que sur les réseaux sociaux, juste un petit message, il y a beaucoup trop de divisions, on entend beaucoup n'importe quoi et on
ça
lit beaucoup sur les réseaux sociaux. Franchement, chambrez-vous dans la bonne humeur, mais faites la fête, on est tous des frères, il n'y a rien, et vive l'Afrique. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Voilà, ça c'est les mots de Samir. Oui, Solal.
Oui,
on revient à toi.
Tu parlais forcément de ces joueurs connus qu'on a l'habitude de suivre dans les grandes compétitions majeures en Europe. Moi, ce qui m'intéresse aussi énormément, c'est cette opportunité qui est tendue à ces joueurs qui jouent le banc en général de compétitions, que ce soit des compétitions majeures ou des ligues moins connues. Et ça va être justement un grand moyen pour eux d'être mis en lumière. Et les retombées après la CAN vont être très intéressantes. Vivien l'avait dit.
On en parlait tout à l'heure.
Et c'est quelque chose que je pense qui va être très très important pour ces joueurs-là. Tu en parlais aussi, le niveau est très élevé pour cette CAN. Ça va être justement un atout en plus pour eux pour se démarquer.
Et je vais d'autant plus dans le sens de Solal, c'est-à-dire que c'est le moment de faire valoir le football africain, dans le sens où à la CAN, on découvre énormément de joueurs, parce qu'il y a énormément de joueurs qui ne sont pas connus. Quand je dis pas connus, ça veut dire qu'ils ne jouent pas dans le championnat majeur européen. Et c'est le moment de montrer aussi, parce que je fais deux apartés, cette CAN sera très couverte par les médias. Il y a énormément de nos confrères qui font énormément de dispositifs spéciaux autour de cette CAN. J'ai rarement vu ça, cet engouement.
En
non, arguments en France, en Angleterre, en Espagne. Exactement. Il y a énormément de couverture de cette CAN et c'est le moment de faire valoir le championnat africain. C'est-à-dire que les pépites locales, il faut qu'elles montrent que en Afrique, il y a du niveau, que le championnat africain est beau et que le championnat africain ne demande qu'à se développer. Et je trouve que lors de la CAN, il n'y a pas meilleure exposition pour ça.
Ouais, Benji, réaction avec Vivien.
Ah mais clairement, et surtout d'autant plus dans cette CAN là où tout va être mis en place pour eux pour pouvoir éclore et pouvoir se révéler aux yeux du grand public dans les meilleures conditions. Et et c'est vrai qu'on avait déjà eu l'occasion sur ce plateau aussi d'évoquer les équipes jeunes africaines en disant qu'il y avait de plus en plus de talents qui émergeaient dans les pays africains, dans les clubs africains. Et pour moi, c'est vraiment l'occasion.
On a vu à la Coupe du Monde, à la Coupe du Monde U20, U18, Nigeria, etc. Les équipes africaines ont fait des très beaux parcours.
Exactement, des parcours c'est plus que remarquables. Donc c'est vrai que pour moi, c'est l'occasion ou jamais pour ces jeunes-là, pour même pas spécialement pour les jeunes, mais juste pour ceux qui manquent de temps de jeu, d'arriver à confirmer une place de titulaire dans leur club respectif. Et quand même, pourquoi pas, de faire la différence pour leur nation et de remporter la plus belle des compétitions africaines.
Bon, on va voir cela. Merci Benji.
Oui. Et il y a un autre aspect pour compléter tout ce qui a été dit, c'est c'est l'aspect des coachs qui fait que ce sera peut-être pour moi la meilleure CAN. C'est que faut se rappeler, il y a quelques années, moi je trouvais qu'il y avait des coachs qui en Afrique, c'était limite, t'as échoué en France comme un Paul Le Guen. Pour moi, il échoue au Paris Saint-Germain et il se retrouve comme ça au Cameroun, il fait la Coupe du Monde 2010. Alors que là, je trouve que les coachs, déjà, il y en a beaucoup des locaux qui ont réussi. Il suffit de voir les deux derniers vainqueurs de CAN, je trouve que c'était la meilleure vitrine possible. Et maintenant, même les Français ou les Européens qui vont là-bas, parce qu'il y a beaucoup de sélections portugaises notamment. On prend l'exemple de Jean-Louis Gasset qui va aller en Côte d'Ivoire. Ben là, je trouve que Gasset, il va être très attendu parce que Gasset, nous, on le connaît par exemple comme un peu l'adjoint de Laurent Blanc. On a l'impression qu'à 70 ans qu'il accepte un challenge comme ça, c'est comme si peut-être il veut prouver quelque chose, prouver qu'il peut exister.
Vivien, juste pour surfer sur ce que tu dis, il a dit aujourd'hui à 70 ans que c'était le plus gros défi de sa vie en fait.
Ah, mais bien sûr, exactement. Et puis le dernier exemple, c'est Hervé Renard qui est maintenant sélectionné en équipe de France U1, comme tout le monde le sait. Mais on a vu comment l'Afrique, ça lui a permis de montrer son potentiel avant ensuite de briller en Asie. C'est pour ça que finalement l'exemple Hervé Renard et l'exemple des derniers sélectionneurs comme Ray Gragui, les deux sélectionneurs algériens et sénégalais, finalement ça c'est moi j'attends beaucoup de voir cette bataille tactique des coachs en tout cas.
Ouais, c'est vrai, il y en a.
Bilal a souligné, juste pour ajouter encore une plus-value en tout cas au démarrage de cette Coupe d'Afrique des Nations, il faut aussi signaler que les organisateurs de cette CAN en Côte d'Ivoire ont fait en sorte de mettre le plus à l'aise possible toutes les sélections. Je m'explique. Alors, ils ont tous un terrain d'entraînement individuel, puisqu'il y a certaines CAN où il y a des sélections qui se partageaient le même terrain. Là, c'est une sélection, un terrain, tu peux travailler de manière privée, de manière confidentielle. Voilà, normalement, sans entre guillemets bavure entre guillemets. Donc ça, c'est super cool. Et ils ont fait en sorte de mettre l'hôtel collé au terrain d'entraînement et collé au stade, en tout cas là où ils vont jouer leur match de poule. Donc même en termes d'organisation et de logistique, moi je dis bravo à la Côte d'Ivoire. Et juste pour finir, en termes de sécurité, ils ont ces derniers mois essayé de recruter un maximum de personnes, donc des locaux sur le territoire, pour justement les former et justement préparer tout ce qui va concerner le filtrage, la sécurité à l'entrée des stades. Donc je demande qu'à voir que c'est du positif, et puis voilà quoi. Donc bravo à la Côte d'Ivoire pour l'organisation.
Ben nous aussi. Oui, peut-être un truc à rajouter encore une fois.
On peut compléter dans le sens
dossier où on concernant la CAN.
Dans le sens de ce que tu disais, c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'échos.
Karim ou Younes, ouais.
Non, avec Samir.
Ce sera Karim ce soir. Karim.
Non, Rachid, moi je trouve ça bien. Ça va bien, ça fait.
Samir, oh. Il est malade.
Non, mais c'est vrai que c'est vraiment bien de mettre en lumière le fait que la Côte d'Ivoire met sur un même pied d'égalité toutes les nations. Et parce qu'on a eu beaucoup d'échos dans les CAN précédentes où certains joueurs se plaignaient de traitements différents selon si on est des pays du Maghreb, d'Afrique noire, etc. Et donc de voir que la Côte d'Ivoire ne fait de l'Afrique qu'un seul continent, sans faire de différence selon, selon les joueurs, selon où ils viennent sur le continent. Pour moi, c'est la chose la plus merveilleuse pour l'unité et pour le spectacle au final.
T'as vu, lui c'est Benji type, toute la soirée. Hein. Ouais. Ouais, c'est pas grave. Ouais.
Et comment est pour, pour éclairer tout ça, c'est un joueur comme Amine Harit qui n'a cessé de mettre en lumière les infrastructures de la Côte d'Ivoire et de remercier le pays hôte.
Alors Solal.
Oui, juste avant la pause.
Le Paris Saint-Germain et Lens.
Une info qui amène un peu plus de légèreté. Vas-y. Juste avant la pause. En fait, c'est tout simplement le rappeur, si vous le connaissez, Bendo Z, qui a affiché ses ambitions par rapport à la Coupe du Monde 2026 qui va se dérouler aux États-Unis. Bendo Z, qui avant d'être rappeur, donc avait joué en National 3 puis à l'Olympique de Genève en Suisse, il a dit, voilà, ce sont ces mots que je dis. Objectif Coupe du Monde 2026 aux États-Unis. Je vais tout donner. Écoutez, c'est à prendre au premier, au second degré, au troisième degré, tout ce que vous voulez, mais je l'ai vu jouer et pour autant, ce n'est pas un mauvais joueur du tout. Il a du ballon.
Il est pas mal. Et toi, Samir, non?
Je suis prêt à l'affronter dans un 5. Je fais une équipe, il fait une équipe, on s'affronte dans un 5. Et malheureusement, moi, pour l'Algérie, c'est mort. J'ai 37 ans, c'est foutu, moi, Bilal. Moi, c'est mort.
Après, il y a peut-être une carrière d'entraîneur. Rachid, Karim, comment il s'appelle.
C'est bon, c'est Samir qui est avec nous.
On sait jamais. Peut-être qu'il a un rôle à jouer avec la connaissance qu'il a, oui. Il y a peut-être chacun peut jouer un rôle dans le sport africain, parce que Beurre FM, on est beaucoup issus de beaucoup avec des origines africaines, donc chacun peut avoir un rôle. On connaît pas le coach Tolé ici autour du plateau, chacun de façon très différente. Par exemple, beaucoup d'auditeurs l'oublient, mais le rôle de la FIFPro, le syndicat qui est attaché aux droits, notamment des footballeurs, beaucoup en Afrique, la FIFPro a fait un travail absolument exceptionnel ces dernières années pour vraiment protéger certains footballeurs africains, pour promouvoir le football féminin africain. Et ça, c'est beaucoup d'auditeurs, pour beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent, qui sont passionnés de football. Voilà, si on n'a pas cette carrière de footballeur, mais il y a beaucoup de façons de contribuer au développement du football.
Ouais. C'est le Bayern de Munich qui rencontre Hoffenheim ce soir en Bundesliga, l'illustre hommage de Kaiser Frank, Beckenbauer. Il était assez émouvant et incroyable, avec toute sa famille dans les tribunes et les supporters qui l'ont rendu hommage. Voilà, ça c'était juste pour l'annoncer sur l'antenne de Beurre FM. Vous restez avec nous, on va revenir avec Lens et le Paris Saint-Germain.
Time Foot spécial Cannes 2024 revient dans un instant. Beurre FM, 20h, 21h, Time Foot spécial Cannes 2024 avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et vous aurez toutes les informations, c'est promis, concernant cette Cannes 2024, et oui, sur l'antenne de Beurre FM, sans oublier aussi sur les réseaux sociaux et sur le site beurrefm.net. 20h36, avant d'accueillir Vanessa, on tient à rappeler aussi que, justement, cette émission spéciale Coupe d'Afrique des Nations, vous la retrouverez chaque soir, notamment aussi chaque dimanche soir, c'est avec Mohand, 18h, 20h, dans Fou de Sport, spéciale Coupe d'Afrique des Nations aussi. Il sera avec vous dès ce dimanche. Lens face au Paris Saint-Germain, probabilité de victoire 25% pour les sang et or, match nul à 24%, 51% pour les Parisiens. Voilà, ça c'est selon les bookmakers français. Allez, sans plus tarder, le dernier dossier de cette émission.
Time Sport, le mode pressing.
On rappelle le Paris Saint-Germain en tête de ce championnat qu'est la Ligue 1 Uber Eats, et aussi les 100 et or à la 7ème place. Le match s'annonce assez chaud du côté de Félix Bollaert ce dimanche soir 20h45. Attention à Kylian Mbappé et ses hommes, Benji. Là aussi.
Ouais, ça va être.
Faut faire attention,
Ça va être une grosse rencontre parce qu'on sait qu'on a quand même, on a un Lens qui est 7ème, mais on a un Lens qui a très, très, très mal débuté sa saison, qui revient bien. Et on a quand même un Lens qui est bien plus solide à domicile. On l'a vu notamment pendant la campagne en Ligue des Champions où ils ont été capables d'aller chercher une victoire face à Arsenal et où ils prennent de mémoire, je crois, 6 ou 7 points à domicile sur cette campagne. C'est un Félix Bollaert qui est absolument fantastique à chaque fois. C'est une équipe qu'on aime suivre, c'est une équipe qu'on a du mal à détester, je pense. N'importe quel supporter de Ligue 1 a du mal à, sauf évidemment nos amis lillois, c'est une équipe qu'on a un peu de mal à détester dans le sens où ça fait vraiment une ambiance absolument fantastique. Mais donc c'est vrai que c'est une équipe qui, pour moi, c'est typiquement le genre d'équipe qui peut poser problème au Paris Saint-Germain, surtout quand on a une équipe comme ça qui à domicile. C'est une équipe qui retrouve en plus de ça Gandhi Grady qui était blessé, donc qui va revenir renforcer les lignes défensives du côté du RC Lens. Donc pour moi, c'est un match qui va être évidemment à l'avantage du Paris Saint-Germain, avec un Paris Saint-Germain qui va être favori, c'est une évidence, surtout avec ce qu'on voit depuis le début de saison et avec ce que met en place Luis Enrique, qui commence à prendre forme au fur et à mesure, et il commence à bien prendre forme, ça commence à devenir très intéressant. Mais à ne pas sous-estimer un Lens à domicile qui est toujours beaucoup plus solide qu'à l'extérieur.
Ouais. C'est son et or justement face au Paris Saint-Germain. Attention aux Parisiens, Samir. Là aussi, faut le rappeler.
Oui,
Coupe d'Afrique qui démarre dès demain, mais bon, le Paris Saint-Germain, ça va. Et bien là.
Bien sûr. Bah, j'ai envie de te dire que là, dans cette Ligue 1 à 18 clubs, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent embêter le Paris Saint-Germain.
Mais Lens, Paris est seul.
Mais Lens à domicile peut en faire partie, effectivement. Même s'ils ont été éliminés de la Coupe de France, mais ils perdaient 2-0 contre Monaco, ils sont revenus quand même avec du caractère et du mental. On n'oublie pas qu'ils sont toujours quand même en Coupe d'Europe. Donc j'imagine que le coach, qui doit avoir aussi beaucoup de pression et beaucoup d'objectifs et d'ambition pour son club, j'aime bien comment le coach défend en fait le RC Lens, la région. J'aime bien toute cette énergie, tout cet esprit compétitif qu'il apporte dans le groupe. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Après, s'il y a bien un entraîneur et une équipe qui peut embêter le Paris Saint-Germain, c'est bien Lens. Maintenant, bah, comme le dit Benji, de toute façon, sur les tous les matchs que le Paris Saint-Germain va jouer, Paris Saint-Germain sera favori dans tous les matchs. Donc il faut bien, à un moment donné, une équipe qui va embêter le PSG. Ce sera peut-être le RC Lens à domicile en hiver, en mois de janvier.
Oui. Mbappé, peut-être un mot concernant aussi Mbappé.
Moi, à l'inverse de tout ce qui peut se dire, en tout cas pour être contraire aux années précédentes, moi je pense que cette histoire de transfert prolonge pas, je pense que là ça va pas du tout le perturber. Je pense même qu'il y a une grosse partie de sa décision qui est déjà prise et qu'il est très tranquille avec ça et qu'il va jouer tranquillement de semaine en semaine jusqu'à qu'il va nous annoncer, selon nos confrères, avant la rencontre contre la Real Sociedad, son choix définitif. Mais moi, je pense que là, c'est pas du tout quelque chose qui va le perturber. Il a pas l'habitude de parler super tôt. Là, il l'a fait après le match contre Toulouse, lors du Trophée des Champions. Il a dit que voilà, quand il fera son choix, il le dira très vite et qu'en gros, je vais pas vous faire galérer jusqu'au mois de juin. Pour moi, c'est un signe positif. En gros, qui reste, qui parte, ma décision est déjà prise et ça va pas perturber son niveau de jeu, celui du vestiaire. Il l'a bien signalé. Et juste pour finir, et je conclurai là-dessus, il n'a pas l'habitude d'être langue de bois et de mentir au public parisien, en tout cas. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment le prendre au pied de la lettre et que ce qu'il dit, c'est sincère et il se foutra pas de la gueule du PSG.
Bien sûr. Alisson, Mbappé, le Paris Saint-Germain face à Lens ce week-end, dimanche soir.
Sur le Paris Saint-Germain, effectivement, Samir et Benji ont bien résumé la situation. Moi, je pense que effectivement, Lens a les capacités d'aller titiller un Paris Saint-Germain plus que serein et effectivement favori. On parlait de la CAN, l'effectif du Paris Saint-Germain n'est pas trop touché, impacté par les départs à la CAN, si ce n'est effectivement une grosse perte sur les côtés pour Hakimi, mais à part ça, je pense que ça va pour eux. Et en ce qui concerne Kylian Mbappé, Samir l'a très bien dit. Si les années précédentes on était pollué par ce feuilleton Kylian Mbappé qui cristallisait tout autour de lui.
Toute une deuxième partie de saison.
Exactement. À partir de janvier, le feuilleton commençait. Là, je pense que les choses sont plutôt claires. Mbappé, à l'heure actuelle, il est libre. Il est libre de partir. Il est libre aussi de rester. Je pense que moi, contrairement à Samir, quand tu disais que sa décision n'est pas tout à fait prise, je pense que sa décision, il la connaît.
Je disais que sa décision est prise justement.
D'accord.
Et que ça va pas perturber.
Non.
Je disais l'inverse.
Pour moi, sa décision est totalement prise. Je pense que c'est qu'une histoire de timing, qu'une histoire de ficelage. Peut-être s'il part au Real, c'est qu'une histoire de contrat, de comment, quel terme on gère exactement la communication, on gère la publicité, etc., les droits d'image. Et donc c'est juste qu'une histoire de ficelage. Je pense que Kylian Mbappé là est serein, contrairement aux autres années. On le voit beaucoup plus apaisé. Il parle moins. Et je pense qu'au début, je le critiquais, le fait qu'il parle moins avec les médias, mais peut-être qu'il avait avait besoin de ce recul-là pour justement réavoir la tête sur les épaules et prendre ses décisions avec beaucoup de recul. Et le Paris Saint-Germain continuera sa saison. Je pense que l'objectif, il est européen. Et Luis Enrique commence à faire émerger un beau groupe. Luis Enrique commence à faire émerger le jeu, du moins qu'il a envie de mettre en place. Donc le Paris Saint-Germain est serein. En Ligue 1, il n'y a pas de défaut. Personne ne peut, voilà, vraiment, à moins d'une grosse catastrophe, personne ne peut vraiment chahuter le Paris Saint-Germain pour le titre. Donc, voilà, contre Lens, ça sera un beau match, mais avec une victoire à la clé.
Victoire à la clé pour les Parisiens, ouais.
Oui, il y a un truc moi que j'aimerais bien évoquer avec vous.
Alors,
je vais essayer d'expliquer mon propos de la manière la plus claire. Alors, c'est une impression globale que je partage un peu avec ce PSG de cette année-là. En fait, pendant des années, depuis l'RQSI, on va dire, il y a un nombre de recrutements au sein du PSG qui font exploser les audiences et même au sein de cette capitale-là qui fait chavirer les cœurs, notamment la saison Lionel Messi, Neymar, Mbappé, où là, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt pour cette équipe du Paris Saint-Germain. Les gens suivaient la Ligue 1. Alors que je trouve que la tendance s'est un peu inversée, où là, on a un PSG où, malgré tout, même si l'ambition globale de ce Paris Saint-Germain sous Luis Enrique n'est pas forcément la Ligue des Champions, ou en tout cas qu'il ne le donne pas de cette manière-là, malheureusement, je trouve qu'au sein du clan des supporters, il y a moins d'intérêt pour cette Ligue 1-là, et que les matchs du PSG qui étaient beaucoup visionnés, que ce soit dans les bars, chez les gens, ou où les gens en parlaient dans la rue, je trouve qu'il y a moins cet intérêt-là autour de la Ligue 1. La Ligue des Champions, je ne me prononce pas à ce sujet-là, mais je pense qu'il y a une petite perdition malheureusement cette année-là, et j'aimerais vous sensibiliser sur ce point et savoir ce que vous en pensez justement.
Il appelle à la sensibilisation concernant le Paris Saint-Germain, c'est bien, oui,
ça,
bravo, c'est ça, de la Ligue 1, oui, réaction, Samir,
vas-y, c'est un beau point à soulever, j'aime beaucoup ce qu'il vient d'évoquer,
et c'est une belle réaction, Solal.
Je suis à 80% d'accord avec tout ce que tu dis.
Alors, on délaisse.
Pour essayer de faire bref.
Commence par les 20 alors.
Pendant. Les 80%, c'est Tariq qui parle, les 20%, c'est Samir. pour faire bref, en gros, pendant très longtemps, quand on a critiqué le PSG, on a fait que de dire les individualités, les stars sont au-dessus de l'institution. Tu vois, c'était ça qui ressortait tout le temps dans la tête des gens. On a tout le temps renouvelé l'effectif en essayant d'aller chercher les plus grosses stars. On a tout le temps changé. Ça a pas très bien marché. Ils ont attendu quand même presque 10 ans pour se dire ça n'a pas marché. On va peut-être changer. Là, l'idée, c'est de faire passer le club un petit pour un club un petit peu plus pas populaire, parce que le PSG, tu peux pas dire ça, mais plus proche justement de ses supporters. Tu vois, les supporters l'année dernière, il y avait une grosse cassure entre le Parc des Princes, les supporters et l'effectif sur le terrain. Clairement, t'avais Neymar et Messi sur le terrain, il est détesté. J'ai été plusieurs fois au Parc des Princes cette année. Je peux te dire qu'avec moins de stars sur la pelouse, les supporters préfèrent le PSG de cette saison
de
que celui de l'année dernière. Ça, je te le confirme.
On se reconnaît dans ce rond.
Là où je te rejoins, c'est sur l'engouement de la Ligue 1.
Voilà, la réaction,
forcément, on a perdu beaucoup de stars, on a perdu des beaux noms du football mondial. Donc forcément, t'as moins d'intérêt, tu le vois. T'as moins de beaux gestes techniques, moins de beaux buts, tu vois. Et je vais même aller un petit peu plus loin et je conclurai là-dessus. Imagine, tu perds Mbappé en Ligue 1, ça va être encore pire. Tu vois, ce que tu dis, je suis d'accord avec toi. Et si on perd Mbappé, quel est l'intérêt? Pourquoi aujourd'hui je vais regarder la Ligue 1?
Quel est l'intérêt pour les droits TV aussi?
Surtout ça.
Alison, je te voyais venir, mais c'est vrai.
Non, mais c'est
on
surtout,
en parle et...
C'est surtout ça. Même avec la.
On a du mal là.
Ce qui faisait que les droits télé de la Ligue 1 se vendaient encore, justement, c'est parce qu'il y avait cette pléthorie de stars. Mmh. Parce qu'on vendait qu'au Paris Saint-Germain, il y avait Kylian Mbappé, qu'il y avait Lionel Messi, qu'il y avait Neymar. Maintenant, si vous regardez bien, déjà, à partir de l'année dernière, enfin, ça fait un moment, mais l'année dernière, c'était compliqué de vendre les droits TV de Ligue 1, ça se vendait un peu moins. Et je crains que si notre dernière grosse star qui reste en France, c'est Kylian Mbappé, on ne sait pas où on va regarder la Ligue 1 l'année prochaine.
Ah ben le match passera à la trappe alors.
Ouais, et pour compléter un peu ce que vous avez dit, je suis globalement d'accord. Je pense que c'est même l'intérêt sur la Ligue 1 globalement qui a un peu diminué, dans le sens où on sort d'un championnat l'année dernière qui était presque historique, on a vraiment eu une très bonne Ligue 1 l'année dernière, avec de très gros matchs, de très bonnes équipes qui se battaient sur le haut de tableau, et j'ai l'impression que ces équipes-là aussi ont perdu pas mal de joueurs. Voilà, Lens, meilleur exemple, avec Openda ou Fofana Comment, par exemple. Donc c'est vraiment, je pense que les adversaires directs du Paris Saint-Germain se sont affaiblis, les gros noms du Paris Saint-Germain sont partis, donc forcément on a un intérêt qui descend, et ces équipes qui sont du coup censées concurrencer le Paris Saint-Germain, concurrence avec des guillemets bien évidemment parce qu'on parle du Paris Saint-Germain en Ligue 1, mais qui sont censés comment venir au moins les embêter, les chahuter dans l'eau de classement, bah ils ne répondent pas présent. Tu prends Rennes, tu prends Marseille, tu prends Lyon, c'est des clubs qui sont à la ramasse complète, et donc forcément tu te retrouves
transformation dans la Ligue 1
dans le haut du classement, avec, sans leur faire offense bien évidemment, mais c'est des clubs qu'on n'attend pas là, comme Brest ou même comme Nice, où on a l'impression que c'est des clubs qui vont finir par retomber un petit peu, que le soufflet va à un moment finir par retomber. Et donc, forcément, on se dit qu'à la fin, quand on prend un peu de hauteur, ben on voit un Paris Saint-Germain seul en haut. Et donc, forcément, je peux comprendre un peu ce désintérêt pour les matchs du Paris Saint-Germain en Ligue 1, et même pour la Ligue 1 en règle générale.
Est-ce qu'ils n'ont pas intérêt à adhérer à la Super League alors?
Ah, ça, c'est un autre débat.
C'est un autre débat, mais c'est une vraie question. C'est un débat en parallèle. Parce que si les droits télé de Ligue 1 ne se vendent plus, comment le Paris Saint-Germain peut se revendre à l'international? Peut-être que c'est en passant par la Super League.
Allez, pour le moment, ils ne se vendent pas.
Ça ne se vend pas. Non, mais c'est ça. C'est que s'il n'y a plus d'intérêt pour la Ligue 1, peut-être que la porte salvatrice pour le Paris Saint-Germain, c'est de passer par la Super League.
Peut-être. Avant de retourner à Solal. Ce PSG, mais aussi cette Ligue 1.
Oui, sur la Ligue 1 en général, je pense qu'on revient un peu à la réalité, surtout pour ceux qui négociaient les droits télé. Certains espéraient le milliard. Comme on dit, il faudra plus regarder plus proche des 100 millions que du milliard si ça continue. Ouais. Mais je pense que, malgré tout, bizarrement, les clubs français, je trouve qu'ils ont été assez bons en Coupe d'Europe cette année et qu'ils ont été très moyens en Ligue 1. Moi, le meilleur exemple, c'est Toulouse. Toulouse, il suffit de voir leur match au Trophée des Champions. Ils viennent à Paris, ils proposent absolument rien, alors qu'en Ligue Europa je trouve qu'ils ont été assez séduisants, et pas seulement que le match retour contre Liverpool. Donc on a quand même pas mal de clubs français encore qualifiés, notamment en Ligue Europa, et s'il y a un club français qui a la bonne idée d'aller dans le dernier carré, ben peut-être que ça peut donner un petit peu de lumière. Pour moi, c'est ça le truc. Enfin,
si c'est Paris Saint-Germain, ça donnera aucune lumière.
Parce qu'au bout d'un moment, faut quand même rappeler qu'on a un football français qui n'a pas gagné la Coupe d'Europe depuis 96. Donc le foot français est juste à sa place.
Oui. Le foot français est à sa place. Le foot français est à sa place.
Tout à fait, c'était quelque chose.
Ouais, t'es d'accord avec ça, Solal?
Moi, j'ai du mal à l'assumer, mais sur ce plateau-là, il y a plus d'une fois où vous avez abordé ce sujet-là en disant voilà, la Ligue 1, c'est plus que c'était. Et j'arrivais pas à y croire, tout simplement parce que ça parle de la Ligue que je suis depuis que je suis petit. C'est comme quand on parle de son club préféré ou de son ami, on n'osera pas forcément s'avouer des réalités. On va toujours les défendre jusqu'au dernier moment. Et en fait, voilà, on entend parler. Tu disais.
Sans la voix qui tremble.
Tu disais tout à l'heure, cher ami, que tout simplement les supporters du PSG étaient plus nerveux l'année dernière, etc. C'était plus négatif. Mais en fait, les supporters du PSG, tout simplement, ils étaient actifs cette année. J'ai l'impression qu'on a complètement des gradins, pas forcément parce que ça se passe dans le stade, mais en tout cas, tous ces supporters-là qui vont voir le PSG à la télé, etc., qui est super passif. Et moi, je sais pas comment me projeter par rapport à cette Ligue 1. Ouais. Pareil, on parlait de Lens, des très très bons.
Exactement, des très belles performances.
Et là, pour moi, ce match-là, il va être un peu déterminant forcément pour Lens, parce qu'ils ont été bons en Ligue des Champions. En Ligue 1, ça se laisse un peu désirer. Et sinon, les amis.
Pour te répondre, je pense que le supporter parisien devant sa télé est devenu un peu plus lucide. Forcément, on lui a demandé de rêver avec les stars qu'ils ont recrutées. Donc, le supporter parisien rêvait devant sa télé en se disant que c'est possible de gagner la Ligue des Champions. Aujourd'hui, on lui a envoyé toutes ces stars, et il y a des messages qui ont été envoyés par Luis Enrique, par Nasser, par tout le monde, sur un projet entre 3 et 6 ans pour que ce soit vraiment le collectif qui soit mis en avant, que vraiment c'est l'institution. Ils ont tellement changé de modèle que le supporter l'a compris et attend beaucoup moins. Tu vois,
et c'est une bonne initiative, je pense que tu me rejoindras. Le Real, les supporters supportent l'entité, le club. Peu importe les stars qui arrivent, ils seront toujours derrière leur écran avec le même engouement parce que c'est le Real à Madrid, le logo avec la couronne. Et le PSG, malheureusement, eux, ils sont un peu dictés par les joueurs. Il y a des bons joueurs, on va supporter, on va s'attendre à un truc de ouf, on va être très actif. Et là, malheureusement, il y a moins de bons joueurs, donc le PSG en délaisse un peu. J'espère, pour te rejoindre, qu'avec ce qu'est en train de mettre en place Luis Enrique, on va plus se réintéresser à ces couleurs-là, ce charme qu'a la ville de Paris, et que ça va être utile. Mais bon.
Peut-être. tête et comme dans beaucoup de clubs, il faut de la patience, point final, et de la stabilité. Voilà, il faut arrêter de tout changer tous les ans. Ça n'existe pas dans le football.
On
ça.
En parlait aussi pour
tu
les
changes le staff, tu changes les coachs, tu changes les joueurs tous les ans, tous les 12 mois, tout change. Ouais. À un moment donné, il faut peut-être un peu de stabilité dans ce club et peut-être que dans 2-3 ans, bah là, les supporters seront contents et les joueurs aussi. Quoi.
Ouais. Bah, en tout cas, même dès cette année, je trouve qu'il y a beaucoup plus de stabilité. C'est pour ça que je pense que pour les Lensois, à mon avis, je pense que Paris va plutôt faire un grand match parce qu'en plus, les joueurs, même si c'est un coach différent, se souviennent de la fessée qu'ils ont un petit peu pris l'an dernier à Lens. Et c'est pour ça que pour Lens, à mon avis, dimanche, ça va être un match assez difficile.
Un grand merci à Vivien de m'avoir accompagné avec Alisson, avec Samir aussi, et non pas Karim. On a Karim depuis Marseille qui nous écoute.
Ah bah voilà, il y avait Karim.
Annel, justement, et sans oublier aussi, voilà, la cousine Kemima. Benji, un grand merci aussi d'avoir été avec moi, Solal. Ouais, c'était pas mal, Solal, sur la dernière partie. Hein. C'est Solal, moi qui te remercie.
Très bon, Solal.
Ouais, il est bon, Solal, concernant le Paris Saint-Germain, mais pas que. Et ouais, bon, Solal,
il est bon aussi dans Confidence.
Hein.
Ah oui, avec Vanessa. Ah, après, il commence à prendre sa voix, soir, répondre aux auditrices.
Ah oui, c'est Vanessa qui arrive, 21h, 23h. Un grand merci à vous, chers auditeurs et auditrices, toujours là à nous suivre. Et on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine. Et nous, on regardera dès demain le match d'ouverture qui opposera justement la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, 21h, c'est bien ça. Ouais, on espère. Alisson et Nasser du côté de la Côte d'Ivoire. Allez, bye bye.
Retrouvez Timesport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.